Bonjour à tous et bienvenue dans Quoi de Neuf.
Aujourd'hui, on est avec Jim.
Salut.
Encore.
Et ouais.
Alors, on te laisse te représenter, du coup.
Jim Sbinden, bientôt 52 ans et de nombreuses vies à mon actif. Donc, je suis l'heureux propriétaire du musée du skate. Mais c'est pas pour ça qu'on se voit ce soir.
Alors, comme il disait, il a de nombreuses vies. On l'a déjà interviewé, justement, pour cette histoire de musée du skate. Mais aujourd'hui, on est là pour parler des jeux vidéo. Et de sa carrière dans les jeux vidéo, d'ailleurs.
Et aussi de son exposition sur le jeu vidéo qui n'est plus à la bibliothèque de la cité.
Eh ben si, parce qu'en fait, c'est une des news que je peux vous donner en exclusivité pour l'instant. Mais ça va dépendre de à quel moment vous allez poster cette vidéo. Mais l'expo est prolongée jusqu'à fin juin parce qu'il y a vraiment énormément de succès. Et du coup, ils ont décidé de la prolonger de 3 mois. Donc
okay.
Jusqu'à fin juin, elle est visible... À la bibliothèque de la cité, au 4e étage, juste en dessus de Confédération Centre.
Et donc, tu as plusieurs soirs où tu donnes une conférence ?
Ouais, je vais remonter 2 conférences, là, je suis en train de bosser dessus. Une va être dédiée aux jeux de combat, parce que voilà, ça a été une de mes grandes passions, les jeux de combat, et j'adore ça. Et pour faire le lien avec le musée du skate, parce que quand même, pour moi, je trouvais que c'était important, on va faire aussi une soirée dédiée aux jeux de skate sur les consoles.
Ah, mais ça, c'est trop bien, ça.
Ouais, je crois que c'était cool de... Bah voilà, les gens, ils me connaissent énormément du milieu du skate et énormément au milieu du musée. Mais c'était cool, justement, de pouvoir faire le lien en disant, bah voilà. Voilà ce que les jeux vidéo de skate ont apporté au skate, parce que c'est la première fois qu'on a un sport qui évolue grâce à un jeu vidéo et non l'inverse.
C'est ouf.
Pourquoi avoir fait une exposition sur le jeu vidéo ?
Ah bah, la réponse, elle est très simple, parce qu'on me l'a demandé. Je peux pas être plus honnête. En fait, j'ai été contacté par la bibliothèque. Par la responsable de la bibliothèque et la responsable du 4e étage, qui est l'étage multimédia, qui m'a contacté par mail et qui m'a dit, voilà, on a un étage dédié aux jeux vidéo, au gaming et au multimédia à la bibliothèque. On aimerait le redynamiser, on aimerait que les gens le découvrent et du coup, on aimerait faire une exposition sur cette thématique. On a entendu, on sait, on a vu que tu as pas mal de pièces dans ce domaine-là. Donc, on te donne un peu carte blanche et tu peux envahir le 4e étage pour ton expo. Ouais, c'est assez super parce que franchement, ma carrière, alors moi j'ai jamais été un gamer pro, j'ai un peu effleuré un peu ce milieu-là, mais j'ai jamais considéré... Enfin, moi, je crois que, on va faire un peu ma thérapie, mais je crois que dès qu'un truc devient pro, en fait, il m'emmerde. Moi, je veux garder le loisir de l'amateurisme, en fait.
Ouais.
Dès qu'un truc devient pro, il y a trop de contraintes, et du coup, ça m'emmerde et je claque la porte. Et les jeux vidéo, ça a été un peu pareil au moment où ça a commencé à se professionnaliser, et puis blablabli, blablabla, je dis ouais, mais en fait, moi, j'ai envie que ça reste un loisir, donc je vais pas aller plus loin là-dedans.
À part pour le fait que tu es ex-champion du monde de Halo.
Ah non, j'ai fait 6e mondial. Il y en avait 5 plus forts que moi.
Quand même, franchement, moi je...
Ouais, mais il y en avait 5 devant moi. Je peux pas m'attribuer le titre de champion du monde.
C'est vrai, mais quand même gros respect. Hein.
Ouais, c'était cool. Ça, c'était des cooles années. Mais tu vois, c'est exactement... Je peux faire un parallèle sur mon amour du Japon. Tous mes potes me disent, mais pourquoi tu vas pas au Japon t'installer ? Parce qu'en fait, je sais que le jour où je vais m'installer, ce rêve, il va se briser, en fait. Je peux garder le rêve du Japon que si je suis un touriste.
Bah, c'est vrai que moi, quand j'étais petit, par exemple, j'avais une peluche que j'adorais, mais qui était que chez ma tata. Mm-hmm. Et en fait, elle m'a dit, mais prends-le. Et moi, j'étais en mode non, parce que du coup, quand je viens, j'ai le plaisir de la retrouver.
Exactement.
Alors que si elle est chez moi, bah, ça deviendra juste une de mes peluches que j'ai dans mon lit, qui est banale.
Voilà. Donc, en fait, moi, ma carrière dans les jeux vidéo, elle a surtout été journalistique, en fait.
C'est vrai.
Plus que gamer.
Mais t'avais une passion quand t'étais journaliste du jeu vidéo ou que t'avais même une émission.
Ouais, mais je vais tellement vous décevoir, comme d'hab. Tu vois, moi, je suis un peu le mec qui déçoit les gens, mais c'est un truc que tu rêves, tu vois. Tu te dis, ouais, je veux être testeur de jeux vidéo parce que c'est incroyable. Mais très vite, tu te rends compte qu'en fait, ce rêve, il devient un cauchemar. Parce que moi, j'étais dans une époque où il y avait énormément de créativité dans les jeux vidéo. Il y avait énormément de studios de développement. Il y avait énormément de labels. Du coup, il y avait énormément, mais vous avez bien entendu, j'ai bien mis l'accent sur le énormément de titres chaque semaine. Et en fait, très vite, je me suis fait dépasser. Parce que au début, quand c'est cool, tout se passe bien, tu dis, ah, alors, tu prends la liste et tu dis, ah, alors à quoi j'ai envie de jouer ? Bon, bah, je vais demander ça, 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 ça. Puis en fait, tu te rends compte que tu en as fait le tour et que très rapidement, tu dois commencer à tester des jeux qui ne t'intéressent pas. Et non seulement il ne t'intéresse pas, mais en plus, tu n'as pas le temps d'y jouer. Parce que le temps que tu commences à jouer, tu en as déjà reçu 4 autres que tu dois tester pour la semaine d'après. Donc, tu te mets dessus. Puis finalement, tu joues 10 minutes à chaque jeu. Tu n'as pas le temps. Tu passes au suivant. Bah, tu n'as plus de plaisir de jouer parce que ça devient un boulot. Et ça devient...
En fait, ça devient stressant.
Faut rusher les jeux.
Tu peux plus prendre ton temps.
Puis du coup, t'as pas le temps parce que t'as un nouveau colis qui est arrivé de chez Nintendo. Tu l'ouvres, il y a 18 boîtes dedans. Donc tu te dis, merde, comment je vais faire? Alors tu téléphones à des potes, parce qu'on n'a pas encore Internet à l'époque. Tu cherches des cheat codes pour aller plus vite, pour avoir toutes les armes d'un coup, tu vois. Et du coup, tu perds vraiment la notion du jeu plaisir. Parce que ça devient un boulot et il faut le faire correctement. Parce que si tu le fais pas correctement, ben, on va pas te faire confiance.
Ça, c'est sûr.
Et donc, très rapidement, le plaisir du jeu, il est supplanté par le devoir du jeu. Donc tu choisis plus les jeux auxquels t'as envie de jouer. T'essayes plus de finir des jeux, tu dois consommer du jeu. Et ça, j'avoue que au bout d'un moment, ouais, ça m'a aussi saoulé. Puis après, j'ai été papa, donc il s'est aussi posé la question de savoir comment j'allais gérer le fait d'être papa avec un enfant, à quel jeu je pouvais jouer devant lui.
Ah ouais, putain.
Tu vois, donc voilà, j'ai dû aussi commencer à arrêter de jouer aux jeux de guerre, aux jeux trop violents. Et puis voilà, le temps est passé et je trouve aujourd'hui là, l'offre s'est amoindrie aussi dans les consoles.
C'est qu'aussi, je pense, maintenant, ça prend beaucoup plus de temps de développer un jeu, quoi.
Alors, surtout, ce qui est horrible, je pense, pour les consommateurs, c'est qu'ils sortent des jeux pas finis.
Mais c'était pas avant qu'on avait des jeux pas finis?
Nous, les testeurs, on avait des jeux pas finis, mais c'était notre métier. Tu comprends? On avait ce qu'on appelait les EPROM, qui étaient des cartes enregistrées avec les jeux dessus, mais il n'y avait pas la boîte en plastique autour. Hein. Okay. Donc, on parle de cartouches, on parle même pas encore de CD, DVD. Nous, on recevait ces EPROM avec des jeux qui étaient finis à peu près à 80% pour essayer de comprendre l'univers, pour voir les graphiques, pour voir les bandes-sons. Enfin, on avait en main tout ce qu'on avait besoin pour faire une critique d'un jeu. Mais aujourd'hui, ils les sortent volontairement pas finis en se disant, de toute façon, dans les communautés, ils vont nous faire des retours et on fera des add-ons par la suite. Et il y en a qui s'en mordent les doigts. Il y a un ou deux jeux aujourd'hui qui ont été mais démolis en flèche, tellement ils sont mauvais et à quel point ils sont pas terminés.
Bah, donne-les-nous alors.
Ah, je peux pas balancer quand même. En plus, c'est pas que je peux pas balancer, c'est que je les ai pas testés moi-même, donc je veux pas amener un avis sur un truc que j'ai pas testé.
Ouais, ouais.
Mais j'ai lu quand même pas mal de trucs en ce moment sur des gens qui hurlent à cause de jeux non terminés, qui ont des bugs à mort. Ah, ouais.
Je voulais savoir ce que tu pensais des hacks des consoles quand une nouvelle console sortait et que des gens essayaient de la hacker, si tu voyais ça comme quelque chose de bien ou de pas bien.
Non mais c'est génial. Moi je l'ai vécu à la grande époque du Commodore 64, donc ça c'est une machine que vous avez peut-être même jamais vue à part à l'expo. Si. Mais le Commodore 64, c'était le clavier beige avec les touches brunes, c'était le paradis du hacker. Et d'ailleurs, c'était même une espèce de compétition inter-hacker, parce que rien ne te rendait plus fier à l'époque que si tu arrivais à craquer un jeu, à remplacer le Epic Game par tes initiales, et ensuite en faire un maximum de copies pour que tout le monde ait l'intro avec ton nom au lieu d'avoir l'intro avec le nom du développeur.
Parce que je trouve que quand le concept de hacker une console est arrivé, c'est devenu un peu un défi pour tout le monde de hacker la console. Donc, au fil des années, la console commence à avoir de plus grandes sécurités, des hackers plus talentueux les uns que les autres commencent à essayer de la hacker et qu'on a eu une sorte de combat comme ça.
Moi, Anis, j'aimerais te poser une question. Tu vois, on parle de quelle période quand on parle de hack de console? Parce qu'aujourd'hui...
C'est pas vraiment une période, c'est surtout sur les consoles Nintendo.
Ouais, mais tu vas comprendre, en fait, d'où je veux en venir. Je pense qu'aujourd'hui, craquer une Wii, c'est un défi. Puis il y a des mecs qui se disent, ouais, moi, je veux y arriver. Comme les mecs, ils ont envie de hacker une banque ou comment ils ont envie d'hacker une station-service. J'en sais rien, c'est un défi. Il y a un truc, il est bloqué, tu essaies de faire péter les blocages. À l'époque, il y avait surtout un problème avec la géolocalisation des jeux. Ce qui fait que si tu achetais une console en Europe, tu ne pouvais pas jouer aux jeux japonais, tu ne pouvais pas jouer aux jeux américains. Et c'est ça qu'on voulait. Parce qu'il y avait 40% des jeux qui ne sortaient pas en Europe et qui étaient liés au marché interne. Donc, les Japonais avaient des jeux d'aventure incroyables qui n'étaient pas possibles de jouer sur une console européenne si tu ne la faisais pas pucer. À l'époque, tu devais aller dans un magasin, ils la démontaient, ils soudaient une puce spéciale qui te permettait à ta console de lire un jeu qui venait pas d'Europe. Mais on n'avait pas le choix, en fait. C'est pour ça qu'on le faisait.
Et donc, craquer, c'est devenu une solution.
Ouais, alors il y avait des solutions. La PS1, par exemple, il y avait des solutions un peu chaotiques qui marchaient une fois sur 10. Franchement, je me souviens plus exactement comment il fallait faire, mais en gros, il fallait lancer ton jeu européen. Il fallait péter un truc du couvercle pour pouvoir ouvrir le couvercle pendant que le jeu était en train d'être lu. Puis juste avant l'écran titre, vite mettre ton CD japonais au lieu de ton CD européen et refermer le couvercle sans qu'elle se rende compte qu'il ait été ouvert. Puis ça marchait une fois sur 10. Puis si t'avais pas envie de te casser les pieds avec ça, t'allais dans certains magasins et tu disais, voilà, je viens la faire pucer. Mais faire pucer une console, ça coûtait le prix de la console. C'était cher. Hein.
Du coup, tu devais faire pucer pour chaque pays.
Il y avait l'Europe, les États-Unis, le Japon. C'était les trois grandes régions.
Mais donc, si tu voulais jouer à un jeu japonais et des jeux qui viennent des États-Unis, tu devais faire pucer pour le Japon et pour les États-Unis.
C'est pour ça que vous n'avez peut-être pas remarqué, mais à l'Expo, il y a une PS1 avec des Switch dessus en plus. Près du bouton on-off, il y a deux petits switches qui est exposé là-bas. Elle est exposée là-bas pour ça, parce qu'elle a, justement, elle a les doubles puces. Donc, en jouant avec les switches, tu peux choisir dans quelle région tu joues.
Ah, c'est... Maintenant, les gens ont compris, mais quand même, de quoi parle ton expo ?
De Pong à Fortnite.
Quand même, pour être sûr, voilà.
Donc, l'histoire des jeux vidéo. On parle très peu des choses très actuelles, parce qu'en fait, on n'a pas besoin de moi. Il y a plein de youtubeurs qui en parlent, mais les choses anciennes aussi. Mais j'ai toujours pensé que c'était pas pareil de regarder des vidéos YouTube et de se rendre compte... la taille de ces machines, du design qu'elles ont. Il y a des belles machines, franchement, ils faisaient beaucoup d'efforts. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué. On a une PS5 qui fait 1 mètre de haut et on a une Xbox qui ressemble à une poubelle. À l'époque, franchement, ils se donnaient quand même beaucoup de peine dans le design. Et c'est vachement intéressant aussi de comprendre pourquoi, comment, les manettes, pourquoi grandes, pourquoi petites, ce qui a évolué. Et je trouve que même s'il y a plein de youtubeurs qui te l'expliquent, quand tu les vois en vrai, c'est pas pareil.
Alors, le premier jeu vidéo qui t'a vraiment marqué ?
J'ai droit à deux réponses.
Oui.
Allez.
Je vais dire le premier qui m'a marqué, parce qu'après tu vas me demander ce que j'ai préféré, donc j'ai pas besoin d'avoir une double réponse. Le premier jeu qui m'a vraiment marqué, je me souviens comme c'était hier et je peux encore y jouer pendant des heures aujourd'hui, c'est le jeu de Cowboy Duel, la cartouche 14 sur le Philips Vidéo, qui est un jeu ultra basique où en fait t'es un cowboy rose ou un cowboy bleu, puis il faut juste tuer l'autre en face. Il y a des champignons de couleur et les balles rebondissent sur les champignons de couleur, donc c'est des algorithmes aléatoires. Il faut aussi imaginer pour les gens qui nous écoutent que le pixel de la balle du pistolet doit faire à peu près 1 cm. Donc on est dans de la super super haute définition. Mais malgré que ce jeu soit ultra basique, il est passionnant à jouer. Franchement, il est démentiel.
Mais je me souviens, on ne peut pas y jouer à l'expo. Mais justement, en fait, j'ai un doute parce que je sais que je l'avais vu à ton expo justement.
Oui, je l'ai présenté.
Mais ouais,
à
l'expo. On ne pouvait pas y jouer, c'est ça.
On peut, mais quand je suis là, je sors les consoles des vitrines et je les branche. Alors c'est plus compliqué parce que le vidéopack ne fonctionne même pas sur une prise Péritel, il branche sur une prise antenne. Et il y a beaucoup d'écrans plats aujourd'hui qui n'ont même plus de prise antenne. Ouais, donc faut trouver des vieilles télés, ça devient de plus en plus compliqué. Et j'ai beaucoup de gens qui me disent « Ouais, moi j'aimerais beaucoup rejouer ». J'ai envie de dire franchement, arrêtez de vous casser les pieds, cherchez des émulateurs sur Internet, ça marchera pareil. Quoi. Ouais, alors il y a des gens qui me disent « Ouais, mais je veux le ressenti d'époque, mais… »
Tu le ressens en 2 secondes.
Voilà, c'est ça, si t'as juste envie de tester un jeu, joue-le sur un émulateur, ça ira très bien.
C'est sûr que oui.
Que penses-tu des jeux mobiles ? Est-ce que tu aimes ? Est-ce que t'aimes bien le format ?
Non, mais je crois que je suis pas là pour dire j'aime ou j'aime pas, C'est un truc qui a évolué en ce sens-là, tu vois. C'est comme si tu me dis, qu'est-ce que tu penses des vélos électriques ? Je veux dire, mais j'en ai rien à foutre des vélos électriques. Tu veux un vélo, tu pédales, autrement tu achètes une voiture. Mais c'est pas ma génération. Je trouve que c'est un peu pernicieux parce que, encore une fois, on va encore revenir là-dessus sur le fait de perdre l'envie. Pour moi, quand je rentrais de l'école et que ma mère était pas là, donc je sais qu'elle allait pas me casser les pieds et puis je pouvais vite brancher ma console en douce avant qu'elle rentre à la maison en me disant, ouais, tu joues encore à un jeu vidéo. J'avais un peu le... Bah bien sûr. Mais j'avais un peu le sentiment de comme ma première clope, tu vois, faire un truc un peu interdit, donc ça m'excitait beaucoup de le faire. Finalement, d'avoir les jeux à portée de main sur ton téléphone, il n'y a plus d'interdit, tu joues où tu veux, dans le bus. Après, moi, je l'assume, moi, je suis un vieux, les gars, tu vois. Donc, moi, déjà, pour jouer, j'ai besoin d'un joystick. Le tactile d'un téléphone, c'est même pas la peine. Et puis, je pense, le seul jeu auquel je joue sur mon téléphone, c'est Pokémon Go. Parce que j'adore sortir de chez moi, aller me balader, trouver des Pokémon rares.
T'es un grand joueur de Pokémon ?
Ouais, je crois que je suis un grand joueur de Pokémon. Ouais, j'ai toujours joué à Pokémon depuis la Game Boy. Et puis je pense que, tu vois, tout d'un coup, dans ma nostalgie d'enfant, j'ai toujours rêvé de pouvoir chasser des Pokémon, tu vois, alors qu'avec ma Game Boy, je pouvais pas. Alors que là, avec mon téléphone, je peux vraiment chasser des Pokémon. Je me balade dans la rue, je trouve des Pokéstop... J'ai mes Pokéballs, j'attrape des Pokémon, ensuite je fais partie d'un groupe de joueurs, je fais des print screens, je leur envoie ce que j'ai trouvé, on se fait des échanges.
Bah, comme s'il y avait vraiment en fait, des chasses de Pokémon dans la vie.
Bah ouais, c'est ça en fait. Et ça, peut-être pour vous qui êtes sur une génération plus après déjà, vous l'avez moins ressenti, mais pour moi, ça, tu vois, depuis le premier Pokémon sur la Game Boy, ça a été mon rêve de pouvoir me balader et chasser des Pokémon. Et tout d'un coup, cette appli, elle m'a permis de le faire, tu vois. On était plus proche de jeux d'aventure à la Zelda dans les Pokémon,
ouais,
tu vois.
Ouais,
mais les Pokémon rouge, bleu, les premières générations, jaune, c'est vraiment... tu marches, t'as pas beaucoup de missions, t'attrapes des Pokémon, tu les fais évoluer, tu fais des combats. C'est très basique, mais ouais. Tout d'un coup, je pouvais le faire dans la vraie vie. Ça, c'était le bonheur.
Je m'étonne. Alors, je sais pas si t'as entendu parler de ce nouveau jeu qui veulent sortir, qui s'appelle Ghostwire.
Non, mais
j'ai une question en rapport, mais je t'explique avec plaisir. Bon, du coup, la question ne sera pas utile. C'était, t'en penses quoi de ce jeu? Mais du coup, si tu sais pas vraiment ce que c'est.
Je vais répondre à ta question.
C'est un nouveau jeu qu'ils ont sorti il y a pas longtemps et il a été. Avant qu'il sorte, en fait, il a été, comment dire, très surcoté. Et quand ils l'ont sorti, énormément de gens étaient déçus. Mais je vais te montrer des images comme ça.
Mais il est que sur portable?
Non, c'est sur ordi.
Ok, ordi.
Ouais. Alors.
Déjà là, c'est compliqué, tu vois, parce que pour moi. Un ordi, c'est un ordi, et pour moi, un jeu vidéo, c'est une console.
Ah.
Ouais. Moi, je suis pas un gamer clavier, quoi.
Alors, moi, c'est le contraire.
Ouais, mais il y a un problème de ressenti. Y a un problème. J'adore avoir une manette dans les mains. J'adore ça. Et je suis tellement vieux que j'adore même qu'elle ait un fil.
Donc, en fait, c'est l'histoire d'une fille qui se réveille au beau milieu de Tokyo. Et en fait, il n'y a plus personne. Tout est vide. Et du coup, en fait, elle se met à chasser. Et c'est un jeu qui joue avec des sorts, donc... Je sais pas s'il joue sur manette, je sais plus, mais je crois qu'il va sortir sur la PS5 ou la Xbox Series X. Et en fait, tu dois faire des combos de touches pour lancer des attaques.
Okay.
Et le problème, c'est qu'en fait, le concept était super bien, les graphiques incroyables. Parce que du coup, j'ai lu pour m'informer au moins plus que toi. Et le problème, c'est qu'en fait, quand il est sorti, au bout de quelques heures de jeu, en fait, c'est tout le temps la même chose. Et ça, ça a été le gros problème de jeu, c'est qu'il était beaucoup trop... Au début, tous les gens qui ont joué ont dit que c'était superbe. Et une fois qu'ils ont commencé à plus y jouer... Bah, ça a commencé à vite devenir redondant, en fait.
Qu'est-ce qui fait qu'un jeu a la cote aujourd'hui, tu vois? Franchement.
Bah, franchement, les gens, je saurais pas dire. Ouais, c'est pas faux.
Among Us, il est à 2 balles. Il est cool, mais il est à 2 balles. Mais ce qui a fait le succès d'Among Us, c'est que du jour au lendemain, toutes les stars ont commencé à jouer, tous les youtubeurs ont commencé à jouer. Aujourd'hui, on est dans une domination des youtubeurs et des instagrammeurs.
C'est vrai.
C'est de la popularité.
Ouais, c'est de la popularité. Mais après, si un jeu est bien, il est bien. Alors pour le coup, je peux vraiment pas me prononcer. Mais pourquoi pas?
Donc toi, t'es plus de la team des vieux jeux que des nouveaux jeux.
Mais je suis un vieux, les gars. Faut vous y faire. Hein.
J'ai mis la question, mais j'étais en mode, je sais déjà la réponse, ben on va quand même la mettre.
Je me posais une question, et j'espère que l'un de vous deux pourra y répondre. J'ai souvent vu un youtubeur se plaindre d'une certaine marque de jeu, Arc-en-Ciel, et je me demandais pourquoi il trouvait ça aussi nul et qu'est-ce qu'elle avait cette marque de jeu d'aussi nul.
Avec un tatou arc-en-ciel, bah, je parle de JDG.
Ouais, je pense pas qu'elle est si mauvaise, je pense que beaucoup de jeux... Ouais, alors, bon, encore une fois, je vais faire vraiment le vieux compte service, mais c'est son fonds de commerce, ça, JDG. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
Donc, pour lui, il va de toute façon faire du trash talk sur tout ce qu'il arrange. Vu qu'en plus, il a pompé son émission sur un autre gars...
Ça, on est des grands fans de JDG, donc.
Je sais, on a déjà débattu de ça. Lui, il fait son fonds de commerce là-dessus. Pour moi, par exemple, aujourd'hui, le pire studio, c'est Ubisoft. Pour moi, je trouve que c'est les gens qui font les jeux les plus nazes de la planète. Mais si, mais c'est le bon exemple. Assassin's Creed, le 1, il est incroyable. Le 2, il est pas trop mal. Le 3, tu te dis, ouais, bon, ok, on a changé de décor, mais le jeu est pareil. Le 4, tu te dis... Ouais, ce serait peut-être bien qu'ils se remettent un peu à écrire des scénarios, parce que finalement, tu vois, puis en fait, Ubisoft, c'est la marque des franchises. Donc, Assassin's Creed, ça marche, ils vont en sortir un chaque année, et puis, c'est tout le temps comme ça, en fait. Ils ont des jeux qui sont... Tu vois, moi, je me souviens quand ils ont sorti Shaun White Skateboarding, qui est le pire jeu de skate qui a été fait au monde, Shaun White Snowboarding, qui a été le pire jeu de snowboard fait au monde, mais en fait, ils n'en avaient rien à foutre, que le jeu soit bien ou pas. Parce qu'ils ont acheté une licence à Shaun White. Ils savaient qu'aux États-Unis, en mettant Shaun White sur un emballage, ils allaient en vendre 2 millions. Rien à foutre que le jeu soit bon ou mauvais. De toute façon, on s'en fout. Puis Ubisoft, faut quand même savoir que ça veut dire l'union des Bretons indépendants.
Ça, je ne savais pas.
Donc quand tu commences par comprendre le nom de la boîte qui fait le jeu et d'où elle vient, tu te dis, ah ouais, tout s'explique, quoi, tu vois.
Ouais, c'est sûr que maintenant, ouais, je ne savais pas, j'apprends des choses.
Et ouais. Alors, ils ont aussi des jeux incroyables. Je veux dire, ils font pas que des merdes non plus, il faut bien le dire. Mais, tu vois, pour un jeu bien, pour payer un jeu bien, ils en sortent 5 qui sont hyper nuls.
C'est pas faux, c'est vrai que c'est un problème, mais c'est comme avec les films au cinéma. Hein. Ils font énormément ça aussi, le truc des franchises. Et c'est chiant.
Marvel.
Ouais.
Ah, Marvel.
Bon, avant, on parlait de Pokémon. Et ouais. Je sais pas si t'as entendu parler du nouveau jeu Pokémon qui sort, Arceus.
Ouais.
Ouais. Est-ce que tu y as joué ou pas?
Oui.
Oui, c'est sur la Nintendo Switch, c'est
ouais,
ça, non?
Ouais.
Est-ce que du coup, tu te réjouissais de la sortie de ce Pokémon? Et du coup, est-ce que tu l'as aimé?
Mais allez, je peux pas être objectif, donc je vais répondre oui. Non, il est bien, franchement. Quel bel univers. Je sais pas, tu sais, encore une fois, on va revenir là-dessus. Je suis un vieux.
Donc, il l'aura dit beaucoup de fois.
Mais oui, mais parce qu'il faut l'assumer, on a tellement une différence de génération. Moi, quand j'ai du temps pour jouer aujourd'hui, je veux du divertissement. J'ai pas envie d'avoir une journée stressante, avoir bossé sur 15 000 projets, rentrer chez moi et mettre encore une heure de stress parce que je joue à Call of. Tu vois, j'ai pas envie de ça. Déjà, personnellement, les jeux de guerre, j'ai jamais été très fan. Alors, je disais avant que j'aimais bien les jeux de baston, mais pour moi, c'est pas tout à fait pareil. Mais prendre son flingue, puis tirer sur tout le monde pour leur mettre des balles dans la tête, je trouve pas que c'est un divertissement. Ok, c'est marrant. On allait parler de mon jeu préféré qui était GoldenEye. Mais GoldenEye, c'était tiré d'un James Bond. Il y avait tout un univers derrière. Moi, jouer à la guerre, c'est pas un truc qui me plaît. Donc, quand je rentre chez moi, puis que je peux trouver une heure de mon temps, j'ai envie de me faire plaisir. Donc... Donc ce plaisir, il va forcément passer par du divertissement. Donc j'ai besoin d'un truc qui me divertit, dans un paysage qui est cool, avec des graphiques qui sont jolis, avec des animaux qui sont marrants. Enfin, tu vois, je pourrais jouer à des jeux d'enfants avec un Peggy 5 ans, juste parce que j'ai envie de rentrer chez moi puis avoir du plaisir à jouer.
Alors sincèrement, ça a été fait avec Ennis. On jouait avant sur l'Xbox 360, qui a été ma première console d'ailleurs. Un grand temps, on avait Call of, on avait tous ces jeux, mais un grand temps, on a énormément joué à, je sais pas si tu t'en souviens, Ennis.
Snow Bros.
Aussi, non, mais ça c'était sur la NES. Mais
Lego Star Wars.
Exactement. Lego Star Wars.
Bah ouais.
Le jeu Lego était un très bon jeu.
Ouais, complètement.
Alors que c'est un Peggy 5 ans enfant, mais moi j'ai toujours trouvé ce jeu superbe.
Mais c'est du divertissement. Franchement.
C'est sûr que c'est pas pareil que quand tu joues à Call of, en tout cas.
Ouais. T'as pas de stress, t'as pas de... Voilà, t'as juste un peu d'excitation parce que tu rentres dans un village, t'as une mission à terminer, tu vas, je sais pas, tu vas attraper un Loclas pour lui grimper dessus, pour traverser un océan. Bah ouais. Mais t'es content, en fait. Puis ça fait du bien, en fait. Je trouve, dans notre société qui va à 3000 à l'heure, on s'est tapé le Covid, maintenant on se tape la guerre en Ukraine, On a des pressions de folie, tu vois.
C'est pas faux.
Tu peux pas te lever le matin sans qu'on te dise « Oh les gars, c'est la troisième guerre, Poutine, il va nous envoyer des missiles nucléaires, on va tous mourir, tu vois. »
Mon Dieu.
Bah, tu prends une heure, tu fais « Waouh, tu fais une partie de Mario Kart.
Oh, » oui.
Tu fais, tu vois, eh ben, qu'est-ce que ça fait du bien.
C'est sûr.
C'est juste ça que je revendique moi, mais ça n'implique que moi. Je comprends qu'il y ait des gens qui soient ultra motivés à jouer à des jeux hyper violents, à jouer à des jeux réalistes, à jouer à des jeux de guerre, à des jeux de tactique. Chacun a le droit de jouer comme il veut, tu vois.
C'est sûr.
J'aime le rock, t'aimes le rap, c'est pas pour ça qu'on peut pas aller boire un verre ensemble. Mais, personnellement, voilà, moi j'ai besoin de jeux cool. Voilà.
Ouais. Plus Nintendo que PS, que Sony, que PSK.
Ça c'est une grande question.
De toute façon, ça arrivera tout ça après. J'ai fait un petit mini-jeu sur les consoles, parce que du coup, ça me paraît être cool à faire avec toi, en tout cas. Avoir ton avis. Mais du coup, je te laisse faire la prochaine question.
Meilleur jeu récent auquel tu as joué?
Pokémon Go.
Non, jeu console, ça compte pas.
Jeu console. Ouais. Oh, la colle, là, vous m'avez posé une colle. Ouais. Vraiment un truc qui m'a marqué.
Pas forcément, mais le meilleur, celui que t'as trouvé le plus cool, mais qui est récent. Pas les vieux jeux.
Récent, c'est quoi? 2 ans, ça marche?
Ouais.
Alors, Red Dead Redemption.
Le combien, le 1 ou le 2?
Le 2.
Le 2.
Incroyable. Une pépite.
Complètement d'accord.
Open world,
magique.
Voilà.
T'as été un fan de GTA, toi?
Moi, j'ai été un fan de GTA, mais j'ai joué au premier GTA sur la Play, celui qui avait une vision depuis dessus, qui était d'ailleurs un jeu extrêmement mauvais. Moi, j'étais un très grand fan d'un jeu que peut-être vous n'avez pas connu, qui s'appelait Fable.
Ça me dit quelque chose.
Fable 1 et 2, qui était une espèce de jeu d'aventure... qui avait été conçu par un gars qui est aussi fou que génial, qui s'appelle Peter Molyneux, qui, en fait, si tu veux, le scénario du jeu va évoluer en fonction de si tu fais des bonnes ou des mauvaises actions.
Et en fait, comme dans Skyrim.
Ouais, Skyrim, ça arrivait plus tard.
Un peu.
Mais il y a carrément des trucs que tu peux pas faire si tu as vraiment des mauvaises actions. L'interaction avec ton personnage est tellement folle que, par exemple, si tu deviens vraiment un démon et que tu as ton personnage qui a du feu et des cornes de diable, par exemple, quand tu rentres dans les villages, tous les villageois se barrent en courant parce que tu es méchant. Ferme. Mais du coup, il y a des missions que tu peux pas faire si tu es méchant. Parce que du coup, bah, les villageois, ils se barrent.
Oh,
et tu dois faire des bonnes actions pour faire redescendre ton karma. En fait, tous les gens avec qui j'ai discuté de ce jeu, ils m'ont tous dit « Ouais, au début, j'étais trop gentil. » Puis après, j'ai pété une case, j'ai commencé à tuer tout le monde dans les villages pour devenir méchant, mais après, je galérais trop. En fait, ce qui est génial, c'est que le jeu, tu peux le faire 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois.
Ça sera jamais pareil.
Ça sera jamais le même.
Ah, c'est trop.
Parce qu'en fonction de ton aura, le jeu est différent.
C'est vrai que dans Skyrim, c'est pas vraiment comme ça. Enfin, moins.
Moins.
En tout cas.
Je sais pas si t'as entendu parler ou même joué à ce jeu, à ce film interactif qui est sorti sur Netflix, fait par les créateurs de Black Mirror, où en fait, t'es un personnage dans les années 80 qui crée un des premiers jeux vidéo sur disquette. Et tu peux choisir ce qu'il va faire, tu peux choisir les actions qu'il va faire. T'auras toujours droit à deux choix. Et chaque action va interagir, donc c'est-à-dire tu prends le Fanta, ça va être utile pour plus tard, ou tu prends pas le Fanta, ton histoire va avoir une autre histoire. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Elle évolue, bon, faut que j'essaye.
Bon, du coup, on va passer au mini-jeu, puis ensuite, s'il nous reste du temps, on fera les questions. Alors, c'est un mini-jeu très simple, on va commencer par les grandes rivalités, enfin, pas forcément que des grandes rivalités.
Je dois répondre rapidement.
Le plus vite possible,
vas-y.
Ça va vraiment enchaîner. Donc, PC ou PlayStation ?
PlayStation.
Xbox ou Nintendo ?
Nintendox.
Xbox ou Play ?
Nintendox.
Nintendox. Non, Xbox parce que j'ai eu un rapport personnel assez incroyable avec cette machine.
PC ou Xbox ?
Xbox.
Play ou Nintendo ?
Nintendo.
Nintendo ou Sega ?
Sega.
Legend of Zelda ou Dota 2 ?
Zelda.
Dans les grandes rivalités
ouais,
des
Zelda,
jeux vidéo,
Zelda.
En l'occurrence. Du coup, GTA ou Saints Row ?
GTA. Il est quand même... Il va plus loin, quoi.
Bah ça c'est sûr, dans tous les cas.
Ouais.
Resident Evil ou Silent Hill ?
Biohazard.
Quoi ?
Biohazard, le nom original de Resident Evil. Biohazard.
Et pourquoi ils ont changé ?
Parce que c'était le nom quand le jeu est sorti au Japon et ils l'ont retraduit après pour l'export.
Ok, donc Resident Evil du coup.
Resident Evil.
Street Fighter ou Mortal Kombat ?
Street Fighter.
Dans tous les cas, t'attends même pas l'autre chose.
T'aurais pu mettre n'importe qui en face.
Street Fighter ou Zelda ?
Street Fighter.
Okay.
Battlefield ou Call of Duty ?
Ouais, bah, je vais pas vous étonner. Call of pour le mode zombie.
Mario ou Sonic ?
Sonic.
Dofus ou WoW ?
World of Warcraft,
ouais,
pour ceux qui savent pas.
WoW.
WoW ?
Ouais.
D'accord. Ah, je suis étonné. Moi, je serais plutôt Dofus, ayant joué aux deux. Après, parce que, après, moi, World of Warcraft, j'ai pas croché dessus.
Ouais, mais j'ai joué
compliqué.
Au premier, tu vois. J'ai joué vraiment il y a longtemps.
Ah oui, bon, ça c'est sûr que... Bah, c'est vrai que je pense que les réponses que moi, par exemple, je répondrais et toi, c'est différent parce qu'on n'avait pas du tout les mêmes choses.
Bah, c'est ça, on n'a pas le même affect, tu vois.
Ah bah ouais, ça c'est sûr. Moi, par exemple, je répondrais PC pour à peu près tout, toutes les questions.
Ouais.
Parce que moi, je suis un joueur PC, j'ai toujours préféré. Rien que parce
que je
suis nul à la manette.
Mais dans ces questions, vous avez oublié une machine que j'aurais répondu à chaque fois, c'était la Dreamcast. Qui pour moi, elle les éclatait toutes sur ce coup-là.
Celle-là, c'est la meilleure pour toi ?
C'est pas la meilleure, parce qu'aujourd'hui, elle est trop ancienne, mais c'est pour moi, c'est la console la plus aboutie, incroyable. La première avec un modem pour pouvoir jouer à distance avec tes potes. Une ergonomie de la manette incroyable. Une carte mémoire dans la manette dans laquelle tu peux gagner des mini-jeux dans tes jeux qui se mettent dans ta carte mémoire.
C'est trop bien.
Et quand tu vas chez ton pote, tu prends ta carte mémoire avec toi. Et dans le bus, quand tu y vas, tu peux jouer à des mini-jeux dans la carte mémoire.
C'est incroyable.
Ouais, c'est incroyable. La Dreamcast, c'est vraiment incroyable. Ouais, ils ont été très très forts.
Bon, et ben on te remercie, Jim, d'être passé pour la deuxième fois dans Quoi de Neuf.
Mais merci à vous pour l'invitation.
Plaisir.
Plaisir.
Ouais, à bientôt. Salut les gars.